Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors sur le plan politique, deux tendances caractérisent notre époque. Lesquelles selon vous Brice ?
D'une part, on l'a dit souvent, la montée des hommes forts portée par une vague nationale populiste. Ils promettent de reprendre le contrôle face à la mondialisation en réaffirmant la souveraineté nationale. Mais de l'autre, des mouvements de contestation populaire qui ont certes des objectifs variables, mais qui présentent des ressemblances formelles incontestables. Selon Arié Naïer, l'un des cofondateurs de l'association Human Rights Watch, il faut éviter de tout mélanger. À Hong Kong ou Barcelone, les manifestants revendiquent une autonomie locale. Dans les villes libanaises, les manifestants réclament le départ d'une classe politique incompétente et corrompue. Ils expriment un sentiment national qui voudrait dépasser le vieux cadre confessionnel, et quelque chose de comparable s'exprime en Irak, où le sentiment national se révolte là contre la mainmise iranienne. En Iran, justement, ont lieu en ce moment même des mouvements de rue durement réprimés avec une grande violence par les gardiens de la révolution, une espèce de milice religieuse et politique à la fois. À Santiago, c'est pour protester contre les inégalités et la corruption qu'un très grand nombre de personnes sont descendues dans les rues. Et à Moscou, les gens ont exigé simplement le respect de la démocratie, la possibilité pour les candidats de l'opposition de se présenter au suffrage des électeurs. Oui, les causes de la protestation sont spécifiques, mais il y a dans l'air, comme un air de révolte qui est communicatif et partout, un sérieux risque d'embrasement dont personne ne sait sur quoi il peut déboucher. Or, je cite Arié Naïer, ces risques sont aggravés délibérément par des contestataires violents qui peuvent considérer leurs actions comme justifiées, mais qui en fin de compte minent leur propre cause en s'aliénant de potentiels alliés et mettent ainsi en danger leurs camarades de lutte. En effet, poursuit-il, le succès ou l'échec de ces mouvements de protestation de masse dépend dans une très large mesure de la manière dont en rendent compte les médias. Selon que le message véhiculé par ces médias peut ressembler à « la police met violemment fin aux manifestations » ou « la police met fin à de violentes manifestations », le résultat sera très différent. Leur responsabilité est donc énorme. Car dans le contexte actuel, celui d'une montée du populisme et de l'autoritarisme, la demande de restauration de l'ordre public peut aboutir, toujours selon Naïer, à des résultats politiques désastreux, tant pour les manifestants eux-mêmes que pour ceux qui étaient restés chez eux à les regarder à la télévision.
Brice, le risque de voir des mouvements non violents débordés et sabotés par des minorités violentes ne serait-il pas accru par l'absence de leaders identifiables à leur tête ?
C'est la question que pose ces jours-ci Yasmine Sheran dans The Atlantic. Combien de temps peuvent durer ces mouvements issus de la base, demande-t-elle, sans un organisateur à la barre ? Ces mouvements ne risquent-ils pas de se transformer en quelque chose que même leurs participants ne pourraient plus contrôler ? L'absence de leadership, caractéristique de la plupart de ces mouvements, est-elle une source de force ou de faiblesse ? En tous les cas, elle s'explique par le fait que ces mouvements se sont formés grâce aux réseaux sociaux. Ils permettent à leurs participants de communiquer et de s'organiser de manière horizontale et décentralisée. C'est aussi un élément tactique efficace. Les mouvements sans leader sont plus difficiles à réprimer parce que le pouvoir ne peut pas les décapiter en arrêtant leur chef. Et c'est le sens du mot d'ordre des manifestations pro-démocratie de Hong Kong. « Soyez informes, insaisissables comme l'eau », c'est un slogan venu des films de Bruce Lee. Mais comme le dit Carney Ross, auteur de The Leaderless Revolution, dans les mouvements sans leader, il existe bien sûr un danger que des minorités utilisent des techniques qui ne seraient pas approuvées par la masse des protestataires.
Puis enfin, il y a cette bizarre coutume, repérée dans de nombreux mouvements, de porter des masques. Quel sens cela a-t-il ?
Réponse d'un jeune universitaire britannique, Aidan McGarry. Primo, cela procure un certain niveau d'anonymat qui permet d'échapper à la répression, surtout à l'heure où la technologie permet la reconnaissance faciale. Deuxièmement, porter un masque confère le sentiment d'être quelqu'un d'autre. Et cela donne du courage, cela rend téméraire, cela pousse à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Tertiaux, les masques de Guy Fawkes, popularisés, vous le savez, par la série V pour Vendetta, avec son sourire ricaneur, est un pied de nez aux élites politiques que les manifestants viennent narguer au pied de leurs bâtiments officiels. Quarto, c'est une manière d'uniforme qui relie aux autres manifestants, confère le sentiment de participer à un collectif amusant autant que puissant. En outre, on a toujours porté des masques pour le carnaval, cette fête où les hiérarchies sociales sont inversées, comme l'a montré Mikhaïl Bakhtine.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Nous sommes jeudi, donc demain vous ne serez pas à l'antenne Brice, mais on peut retrouver votre chronique sur le site de France Culture, sur la page du Tour du Monde des Idées. Donc rendez-vous lundi.